Chapitre 4, 8e partie, chez Confucius. Quand nous sortons de chez ces fantômes de Lama, une demi-heure de soleil nous reste encore, et nous allons chez Confucius qui habite le même quartier, la même nécropole pourrait-on dire, dans un délaissement aussi funèbre. La grande porte vermoulue, pour nous livrer passage, s'arrache de ses gonds et s'effondre, tandis qu'un hibou qui dormait par là prend peur et s'envole. Et nous voici dans une sorte de bois mortuaire, marchant sur l'herbe jaunie d'automne, parmi de vieux arbres à bout de sève. Un arc de triomphe d'abord se présente à nous dans ce bois, hommage de quelque souverain défunt ou grand penseur de la Chine. Il est d'un dessin charmant, dans l'excès même de son étrangeté, sous les trois clochetons d'émail jaune qui le couronnent de leurs toits courbes, ornés de monstres à tous les angles. Il ne se relie à rien. Il est posé là comme un bibelot précieux que l'on aurait égaré parmi des ruines. Et sa fraîcheur surprend au milieu du délabrement de toutes choses. De près, cependant, on s'aperçoit de son grand âge, à je ne sais quel archaïsme de détails et quelle imperceptible usure. Mais il est composé de matériaux presque éternels, où même la poussière des siècles ne saurait avoir prise sous ce climat sans pluie. Marbre blanc pour la base, faïence ensuite jusqu'au sommet, faïence jaune et verte, représentant en haut relief des feuilles de lotus, des nuages et des chimères. Plus loin, une grande rotonde qui accuse une antiquité extrême nous apparaît couleur de terre ou de cendre, entourée d'un fossé où meurent des lotus et des roseaux. Cela, c'était un lieu pour les sages, une retraite où ils venaient méditer sur la vanité de la vie, et ce large fossé avait pour but de l'isoler, d'y faire plus de silence. On y accède par la courbe d'un pont de marbre dont les balustres ébauchent vaguement des têtes de monstres. À l'intérieur, c'est la décrépitude, l'abandon suprême. Tout semble déjeté, croulant, et la voûte encore dorée est pleine de nids d'oiseaux. Il reste une chaire, jadis magnifique, avec un fauteuil et une table. Sur toutes ces choses, on dirait qu'on a semé à pleine pelletée une sorte de terre très fine, dont le sol est aussi recouvert. Les pas s'enfoncent et s'assourdissent dans cette terre-là, qui est répandue partout en couches uniformes, et sous laquelle on s'aperçoit bientôt que des tapis subsistent encore. Ce n'est cependant que de la poussière, accumulée depuis des siècles, l'épaisse et la continuelle poussière que souffle sur Pékin le vent de Mongolie. En cheminant un peu dans l'herbe flétrie, sous les vieux arbres desséchés, on arrive au temple lui-même, précédé d'une cour où de hautes bornes de marbre ont été plantées. On dirait tout à fait un cimetière cette fois, et pourtant, les morts n'habitent point sous ces stèles qui sont seulement pour glorifier leur mémoire. Philosophes qui, dans les siècles révolus, illustrèrent ce lieu par leur présence et leur rêverie, profonds penseurs à jamais ténébreux pour nous, leurs noms revivent là, gravés, avec quelques-unes de leurs pensées les plus transcendantes. De chaque côté des marches blanches qui mènent au sanctuaire sont rangés des blocs de marbre en forme de tam-tam, objets d'une antiquité à donner le vertige, sur lesquels des maximes, intelligibles seulement pour quelques mandarins très érudits, ont été inscrites jadis en caractères chinois primitifs, en lettres contemporaines et sœurs des hiéroglyphes de l'Égypte. C'est ici le temple du détachement, le temple de la pensée abstraite et de la spéculation glacée. On est saisi dès l'abord par sa simplicité absolue, à laquelle jusqu'ici la Chine ne nous avait point préparés. Très vaste, très haut de plafond, très grandiose et d'un rouge uniforme de sang, il est magnifiquement vide et supérieurement calme. Colonnes rouges et murailles rouges, avec quelques discrets ornements d'or, voilée par le temps et la poussière. Au milieu, un bouquet de lotus géant dans un vase colossal, et c'est tout. Après la profusion, après la débauche d'idoles et de monstres, le pullulement de la forme humaine ou animale dans les habituelles pagodes chinoises, cette absence de toute figure cause un soulagement et un repos. Dans des niches alignées contre les murs, des stèles, rouges comme ce lieu tout entier, sont consacrées à la mémoire de personnages plus éminents encore que ceux de la cour d'entrée, et portent des sentences qu'ils énoncèrent. Et la stèle de Confucius lui-même, plus grande que les autres, plus longuement inscrite, occupe la place d'honneur, au centre du panthéon sévère, posée comme sur un autel. À proprement dire, ce n'est point un temple, puisqu'on n'y a jamais fait ni culte ni prière. Une sorte d'académie plutôt, une salle de réunion et de froide causerie philosophique. Malgré tant de poussière et d'apparent abandon, les nouveaux élus de l'Académie de Pékin, infiniment plus que la nôtre, conservatrice de formes et de rites, on m'accordera bien cela, sont tenus encore, paraît-il, d'y venir faire une retraite et tenir une conférence. En plus des maximes de renoncement et de sagesse inscrites du haut en bas de sa stèle, Confucius a légué à ce sanctuaire quelques pensées sur la littérature, que l'on a gravées en lettres d'or, de manière à former çà et là des tableaux accrochés aux murailles. Et en voici une que je transcris à l'intention de jeunes érudits d'Occident, préoccupés surtout de classification et d'enquête. Ils y trouveront une réponse vénérable et plus de deux fois millénaire à l'une de leurs questions favorites. La littérature de l'avenir sera la littérature de la pitié. Il est près de 5 heures quand nous sortons de ces temples, de ces herbes et de ces ruines. Et le triste soleil rose d'automne achève de décliner là-bas derrière l'immense Chine, du côté de l'Europe lointaine. Je me sépare alors de mes compagnons du jour, car ils habitent, eux, le quartier des légations, dans le sud de la ville tartare, et moi, c'est dans la ville impériale, fort loin d'ici. À travers les dédales et les solitudes de Pékin, j'ignore absolument le chemin à suivre pour sortir de ces lieux morts où nous venons de passer la journée et où jamais je n'étais venu. J'ai pour guide un mafou que l'on m'a prêté, en français un piqueur, et je sais seulement que je dois faire plus d'une lieue avant d'atteindre mon gîte somptueux et désolé. Mes compagnons partis, je chemine un moment encore au milieu du silence des vieilles rues sans habitants, pour arriver bientôt dans des avenues larges qui paraissent sans fin et où commencent à grouiller des robes de coton bleu et des faces jaunes à longue queue. De petites maisons toutes basses, toutes maussades et grises, s'en vont à l'interminable file de chaque côté des chaussées, où les pas des chevaux dans la terre friable et noire soulèvent d'infects nuages. Si basses les maisons, et si larges les avenues, que l'on a sur la tête presque toute l'étendue du ciel crépusculaire. Et tant le froid augmente vite à la tombée du jour, il semble que de minute en minute, tout se glace. Parfois le grouillement est compact autour des boutiques où l'on vend à manger, dans la fétidité qu'exhalent les boucheries de viande de chien et les rôtisseries de sauterelles. Mais quelle bonhomie en somme chez tous ces gens de la rue qui, au lendemain des bombardements et des batailles, me laissent passer sans un regard de malveillance. Qu'est-ce que je ferais pourtant avec mon mafou d'emprunt et mon revolver si ma figure allait ne pas leur convenir? Ensuite, on se retrouve isolé pour un temps parmi les décombres, au milieu de la désolation des quartiers détruits. D'après l'orientation du couchant d'or pâle, je crois voir que la route suivie est bonne. Si cependant il n'avait pas compris où j'ai l'intention de me rendre, mon mafou, comme il ne parle que chinois, je me trouverais fort au dépourvu. Ce retour me paraît interminable dans le froid du soir. la fin, cependant, voici là-bas, en silhouette déjà grise devant le ciel, la montagne factice des parcs impériaux, avec ses petits kiosques de faïence et ses vieux arbres tordus, qui se groupent et s'arrangent comme sur les lacs, dans les paysages précieusement peints. Et voici la muraille rouge sang et l'une des portes d'émail jaune de la ville impériale, avec deux factionnaires de l'armée alliée qui me présentent les armes. Là, je me reconnais, je suis chez moi, et je congédie mon guide pour entrer seul dans cette ville jaune, de laquelle, du reste, à cette heure-ci, on ne le laisserait plus sortir. La ville impériale, ou ville jaune, ou ville interdite, murée de six terribles murs au milieu même de l'énorme Pékin aux enceintes babyloniennes, est bien plus un parc qu'une ville, un bois d'arbres séculaires, de l'espèce sombre des cyprès et des cèdres, qui peut avoir deux ou trois lieues de tour. Quelques très anciens temples y émergent d'entre les branches, et aussi quelques palais récents, dus aux fantaisies de l'impératrice régente. Ce grand bois, où je pénètre ce soir comme chez moi, à aucune époque précédente de l'histoire n'avait été violé par les étrangers. Les ambassadeurs eux-mêmes n'en passaient jamais les portes. Jusqu'à ces derniers jours, il était demeuré inaccessible aux Européens et profondément inconnu. Elle entoure cette ville jaune, elle protège, derrière une zone de tranquillité et d'ombre, la plus mystérieuse encore ville violette, résidence des fils du ciel, qui y occupe au centre un carré dominateur, défendu par des fossés et de doubles remparts. Et quel silence ici, à cette heure, quel lugubre désert que tout ce lieu. La mort plane à présent sur ces allées qui jadis voyaient passer des princesses promenées dans des palanquins, des impératrices suivies de soyeux cortèges. Depuis que les hôtes habituels ont pris la fuite et que les barbares d'Occident occupent leur place, on ne rencontre plus personne dans le bois, si ce n'est, de loin en loin, une patrouille, un piquet de soldats d'une nation ou d'une autre. Et on n'y entend guère que le pas des sentinelles devant les palais ou les temples, ou bien, autour de quelques cadavres, le cri des corbeaux et le triste aboiement des chiens mangeurs de mort. J'ai d'abord à traverser une région où il n'y a que des arbres qui ont vraiment des tournures chinoises et dont l'aspect suffirait à donner la notion et la petite angoisse de l'exil. La route s'en va là-dessous, inquiétante, soudainement assombrie par les vieilles ramures qui y font le crépuscule presque nocturne. Sur l'herbe rase, fanée par l'automne, sautillent des pies attardées. Sautillent aussi, dansent en rond noir avant de se coucher, des corbeaux dont les croassements s'amplifient et font peur au milieu du froid et du silence. Et là-bas, des chiens dans une sorte de clairière où tombe un peu de lueur, traînent une longue chose qui a forme humaine. Après la déroute, les défenseurs de la ville jaune sont venus mourir n'importe où dans le bois, et les moyens ont manqué pour les ramasser tous. Au bout d'un quart d'heure, apparition de la ville violette, dont un angle surgit devant moi au détour du chemin. Elle se découvre lentement, toujours muette et fermée, bien entendu, comme un colossal tombeau. Ses longues murailles droites, au-dessus de ses fossés pleins d'herbages, vont se perdre dans les lointains, confus et déjà obscurs. Le silence semble s'exagérer à son approche, comme si elle en condensait, comme si elle en couvait, du silence, dans son enceinte effroyable, du silence et de la mort. Un coin du lac des Lotus commence maintenant de s'indiquer comme un morceau de miroir clair, renversé parmi des roseaux pour recueillir les derniers reflets du ciel. Je vais passer tout au bord, devant l'île des Jades, où mène un pont de marbre, et je sais d'avance, pour l'avoir journellement vu, la féroce grimace chinoise que me réservent les deux monstres gardiens de ce pont, depuis des siècles accroupis sur leur socle. Je sors enfin de l'ombre et de l'oppression des arbres. Le lac des lotus achève de se déployer devant moi, faisant de l'espace libre, en même temps qu'une grande étendue de ciel crépusculaire se dégage à nouveau sur ma tête. Les premières étoiles s'allument au fond glacial du vide. Et c'est le commencement d'une de ces nuits que l'on passe ici, au milieu de cette région très particulière de Pékin, dans un excès d'isolement et de silence, avec, de temps à autre, des coups de fusil au loin, traversant le calme tragique des palais et des arbres. Il gèlera tout à l'heure, on la sent venir, la gelée, à l'âpreté de l'air qui cingle la figure. Le lac, jadis invisible, le lac des lotus, qui doit être en effet, durant la saison des fleurs, le merveilleux chant de calice rose décrit par les poètes de la Chine, ne représente plus, en cette fin d'octobre, qu'un triste marécage, recouvert de feuilles roussies, et duquel monte à cette heure une buée hivernale, comme un nuage qui traînerait sur les roseaux morts. Ma demeure est de l'autre côté de ce lac, et j'arrive au grand pont de marbre qui le franchit d'une courbe superbe, d'une courbe encore toute blanche, malgré l'envahissement des obscurités grises ou noires. À cet endroit, comme je m'y attendais, une senteur cadavérique s'élève tout à coup dans l'air glacé. Et je connais depuis une semaine le personnage qui me l'envoie. En robe bleue, les bras étendus, couché le nez dans les vases de la rive et montrant sa nuque où le crâne s'ouvre. De même que je devine, dans le fouillis épeurant des herbes, son camarade, qui à 10 pas plus loin, gît le ventre en l'air. Une fois passé ce beau et solitaire pont de marbre, à travers le pâle nuage dont les eaux se sont enveloppées, je serai presque arrivé à mon logis. Il y aura d'abord à ma gauche un portail de faïence gardé par 2 sentinelles allemandes, 2 êtres vivants que je ne suis pas fâché de savoir bientôt sur ma route et qui, s'ils y voient encore, me salueront de larmes avec un ensemble automatique. Ce sera à l'entrée des jardins, au fond desquels réside le feld-maréchal de Waldersee, dans un palais de l'impératrice. Et 200 mètres plus loin, après avoir traversé d'autres portails et des ruines, je rencontrerai une brèche fraîchement ouverte dans un vieux mur. Ce sera mon entrée à moi, gardée par un soldat de chez nous, un chasseur d'Afrique. Un autre palais de l'impératrice est là, très caché par des enclos, et se perdant un peu sous bois, un palais frêle, tout en découpure et en vitrage. Alors je pousserai une porte de verre, peinturlurée de lotus rose, et retrouverai la féerie de chaque soir. Sous des arceaux d'ébène prodigieusement sculptés, et sur des tapis jaunes, l'éclat des inappréciables porcelaines, des cloisonnées, des lacs, et des soies impériales traversées de chimères d'or.